France Musique.
Bon week-end, Nicolas Lafitte, et à très vite.
On va déborder un petit peu, le filet se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Il y a du café?
Ouais, du café. J'arrive, j'arrive.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fabrication Maison qui vous entraîne dans les coulisses de la radio. Ce matin, ce sera une émission un peu exceptionnelle, puisque dans le portrait, nous avons le très grand plaisir de recevoir le maestro Daniele Gatti, qui fait cette année ses adieux à l'Orchestre National de France et à qui nous ouvrons largement cette antenne. Puis dans son reportage, Hugo Brisset est allé traîner du côté de Saint-Denis pour découvrir comment on y perçoit le festival qui vient de débuter. Dans sa chronique, Marie Fauché évoque le festival Manifeste de l'IRCAM. Puis l'émission s'achèvera exceptionnellement avec les fabuleuses archives de Jean-Yves Pat. Il y a de quoi faire ce matin encore.
France Musique.
Bonjour Maestro Gatti.
Bonjour madame.
Merci d'être venu nous retrouver ce matin. Alors en 5 musiques, nous allons essayer de traverser un peu rapidement ces 8 années que vous avez passées à la tête de l'Orchestre National de France. Alors dites-moi Maestro Gatti, 8 années, c'est court ou c'est long?
Peut-être que c'est juste.
Ça, toujours une bonne réponse. On a le temps de connaître l'orchestre, on a le temps d'avoir
oui.
Des projets.
Écoute, avant que la proposition d'Amsterdam arrive, j'ai déjà décidé de terminer. Après 8 ans, j'ai fait les premières 5 années et je pensais de faire encore 3 années. Je pense que c'est un chef et il doit comprendre quand le moment de se saluer avec l'orchestre, c'est le bon moment. Et peut-être un peu plus triste de considérer qu'au moment peut-être de bon, d'extrême bonne relation musicale, on se lasse. Mais pour avoir aussi un bon souvenir, pour avoir aussi des motivations pour retourner. Beaucoup entre un chef et un orchestre qui se lasse à la fin d'une période de stress, il aura encore de chances de faire musique ensemble. Parfois, le chef préfère s'éloigner de l'orchestre. Il y a des situations qui sont malheureuses. Alors là.
Vous partez avec tout l'amour de l'orchestre.
Mais je parte aussi avec l'amour.
Oui.
Qu'il parle de moi vers oui. L'orchestre. Et la testimonience plus éclatante était comme il a joué cette Tristan en Isolde.
Ouais. C'était une merveille.
Oui, et avoir passé ensemble 2 mois, parce que le Tristan, bien sûr, mais les concerts avec la 4e de Mahler, la 7e de Bruckner, on prépare le dernier 2 concerts, on va terminer avec les concerts du 14 juillet. C'est-à-dire qu'on est resté vraiment beaucoup
très
ensemble.
Très proche, là, oui. 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 Alors je vous propose qu'on commence ce portrait musical avec Hector Berlioz.
Thank you.
Daniel Agati, nous commençons cette évocation de vos liens avec l'Orchestre National de France avec cet extrait de la Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz. Vous souriez en écoutant cette
oui, interprétation. Oui, parce que ça, c'est un des plus beaux cadeaux que Paris m'a donné.
Hector Berlioz.
L'amour explosait avec la musique de Berlioz. Quand je suis arrivé, on confesse ça. Je me rappelle que le président de la radio à l'époque, Cluziel, il m'a demandé sur la musique française, sur la musique de Berlioz, qu'est-ce que vous... Ah non! Parlez-moi de Berlioz, j'ai dit. Je suis à l'opposition de la musique de Berlioz et jamais avec moi. Et je me trompais, bien sûr. Et après, lentement, je suis entré dans ce monde parce que simplement, je ne pourrais pas comprendre Berlioz comme musicien. J'ai refusé, mais c'était mon limite mentale. Nous musiciens, parfois, on a des musiciens qui nous adorent et d'autres qui, vraiment, ils sont tellement loin de notre sensibilité. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais à la fin, j'ai dit, je ne peux pas lasser l'Orchestre National de France sans une fois conduire un morceau de Berlioz. Alors, on a décidé de faire pour l'ouverture de la saison 2014-15 le Roméo et Juliette.
Oui, je me souviens.
Et quand j'ai ouvert la partition, j'ai dit, mais ça, c'est vraiment un chef d'œuvre. Alors, on peut ça, on peut lire des livres d'histoire, tout ça. Et la passion est arrivée là, et la première expérience avec sa musique était formidable. Et j'ai décidé tout de suite de conduire la Fantastique pour ouvrir la saison après. Et là, j'ai fait aussi un concert avec le Concertgebouw d'Amsterdam en avril avec la Fantastique. Je la conduirai la prochaine année encore.
Ça y est, grâce à vous, la musique française va pénétrer le Concertgebouw.
Mais écoute, pourquoi? Je peux dire un petit point de vue personnel. Quand j'allais ouvrir la partition de la Fantastique surtout, j'ai noté des choses que d'habitude c'est un peu difficile d'entendre. Et j'ai pensé, mais comme elle est moderne, il ressemble à une partition écrite d'un Mahler. C'est incroyable qu'en 1828-29, un musicien a eu, comment dire, le courage de faire ça. Mais pourquoi on respecte un peu plus, au mieux? Pourquoi on va mettre dans l'évidence encore plus cet extrémisme? Et quand on a commencé la répétition avec l'Orchestre National de France, j'ai trouvé le musicien prêt à dire, OK, ça c'est notre musique, c'est notre répertoire. Mais on peut regarder avec des yeux, des lunettes à un moment nouveau, des lunettes d'un Italien qui, pour la première fois, il regarde cette musique, qui n'est pas peut-être influencé dans le sens de la tradition mais qui parfois, on peut dire, il porte un peu un côté brahmsien sur une musique comme ça. Et alors, j'ai dit, mais à la fin, c'est un peu plus légère, un peu plus extrême dans la dynamique qu'il demande, un peu plus théâtral, parce que je dois dire, influencé beaucoup dans l'histoire qu'il est derrière la Symphonie Fantastique. Oui. L'histoire que Berlioz, il a dit, mais peut-être qu'on peut faire des exécutions de la Symphonie sans ça, après, non, mais c'est plus clair. Mais qu'est-ce que ça, c'est important? C'est le pensée de compositeur qui, je pense, derrière écrit un morceau comme ça, il a eu vraiment très clair devant lui, une projection théâtrale, une histoire à donner en musique. Alors, pourquoi pas être bien influencé et recherché dans les partitions, qu'est-ce qui sont les éléments qui sont les plus théâtrales, et donner le temps suffisant pour écouter et pour être mis en dehors. Et là, c'était une aventure merveilleuse.
Nous aussi, on doit le dire. Vous appliquez cette méthode de relecture, d'une certaine façon, à pas mal des compositeurs. Je vous propose qu'on passe à la musique pour cordes, percussions et célestat de Béla Bartók.
Thank you.
Alors nous écoutions un extrait de cette musique pour cordes, percussions et célesta que vous avez enregistrée au Théâtre des Champs-Élysées en 2009. Bartók, vous l'avez couplé avec beaucoup de compositeurs, Brahms en particulier, comme une espèce de contrepoint à cette musique romantique, vous pensez que...
Non, Bartók et Brahms, après, en 2009, on a commencé à faire des intégrales.
Ouais. Je voulais vous questionner là-dessus, oui. Sur ces intégrales, vous en avez fait beaucoup.
Oui, parce que je pense que le chef et l'orchestre, ensemble, le chef principal et l'orchestre, ils doivent, comment dire, faire de parcours ensemble sur les grands répertoires, et sur les intégrales surtout, pour donner une ligne à l'intérieur de la création d'un compositeur. On a commencé avec Bartók et Brahms.
Oui, non oui.
Après, on a fait le Mahler.
Mahler, oui.
Pour
Beethoven.
L'hommage de l'anniversaire mahlérien. On a fait Beethoven. On a fait
Beethoven,
je désire aussi mentionner les 5 compositions modernes.
Oui, tout à fait, c'est vrai
parce
que c'était passionnant.
Parce que le cycle de Beethoven, comme d'habitude on peut faire, on fait seulement les symphonies, mais là on a désiré, comment dire, donner un espace à 5 compositeurs français qui a écrit sur les effectifs beethoveniens de l'orchestre. Une composition 12-13 minutes, pas plus. Et la chose, je pense qu'il était vraiment intéressant, intelligent, c'est que nous avons joué 2 fois le morceau contemporain dans la même soirée, à la fin du premier parti et au début de la deuxième.
Oui.
Et toujours la deuxième était mieux que la première.
Non, nourri par Beethoven.
Non, je ne parle pas du point de vue...
Musical.
Non, technique. Musicalement. On était beaucoup plus relaxés, plus... Après, on a fait le Tchaïkovski.
Schumann.
Et Schumann.
Oui,
c'est,
quand même. C'était beau, tout ça.
C'est dommage que je n'ai pas le temps de commencer un cycle Bruckner.
Vous aimeriez? Oui.
Non, c'est aussi vrai que c'est un compositeur pour moi tellement important qu'on ne peut pas, comment dire. J'ai retour vers Bruckner. J'ai conduit un petit peu de symphonie dans les années passées. Et je recommencerai un peu plus sérieusement dans les prochaines années. C'est un compositeur que j'ai besoin d'arriver avec un peu plus de maturité.
C'est une éducation de l'orchestre, c'est une éducation du public aussi. Je pense que c'est intéressant pour un public, les auditeurs aussi bien que le public de la salle, d'entendre des intégrales, de s'immerger dans l'œuvre d'un compositeur. C'est aussi bien pour un chef.
C'est fondamental pour un chef, pour son orchestre. Je pense qu'on peut laisser aussi une trace de notre visite sur ce répertoire à côté des autres programmes plus hétérogènes. Bien sûr, ça c'est une diversité qu'on peut donner à notre public, à notre ville, quand l'Orchestre National s'engage pendant une saison dans des programmes, comme je dis, hétérogènes, plus fantasieux, plus... Et un projet artistique qui, saison pour saison, se va, comment dire, on l'accomplit.
Alors on passe à l'opéra?
On passe à l'opéra.
Du Fremdmacht des Schmerz, des Trostes. Was alles vergaß ich wohl noch? Es war ich je noch ein Gedenk, nur dumpfe Torheit liebt in mir.
Bekenntnis, wie schon.
Un extrait du Parsifal. Alors, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la date. 2012, 2011, 2011, les paris sont ouverts.
Pour moi 2011.
Pour lui, 2011. Pour moi, 2012. Non, c'est 2012. D'accord.
Ok. Vous avez gagné.
Au Théâtre des Champs-Élysées. Bon, après, il y a eu ce magnifique Tristan et Isolde que vous nous avez offert, là, récemment, au Théâtre des Champs-Élysées. En fait, ça fait presque deux intégrales, hein, ce que vous faites vivre à l'orchestre.
Attendez.
4h30 dans
attendez,
la fosse.
Dominique, le Parsifal était en forme de concert.
Oui.
L'orchestre était sur la scène, le chanteur sortait et entrait sur un praticable, mais sans
c'est pas la même expérience.
C'est pas la même expérience. Le Tristan Isolde était une opéra.
Oui, complet.
L'orchestre dans la fosse, une autre sonorité, l'expérience totalement différente, bien sûr.
Daniel Legati, vous avez combien d'opéras dans la tête? J'ai l'impression que vous en avez beaucoup. Je sais qu'il y en a plein que vous êtes capable de diriger sans partition. Il y a quand même des œuvres absolument énormes, les Verdi.
D'accord, mais ça pour moi c'est un sujet pas intéressant. Comment dire, je dois dire une petite chose que récemment j'ai commencé à conduire avec la partition.
Ouais.
Mais aussi pour donner une parfois la sympathie du public, l'honnêteté du public qui vient, me fait des compliments et alors il souligne de
vous êtes sympathique.
Et je veux pas que ça soit un élément pour avoir.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Vous voulez pas que ce soit une sorte de
en plus,
de tour de force.
On a tout pour dire que c'est un concert magnifique.
Oui,
non,
d'accord.
Non, alors je tiens la partition parce que le résultat musical, c'est la seule chose qui importe.
Oui, mais quand même, je pense que le fait que ces partitions soient en vous et qu'elles soient là avec... Enfin, je veux dire, quand on pense à ces œuvres de Wagner, c'est un texte, c'est une musique, c'est quelque chose... C'est pas le fait ou pas de regarder une partition, c'est plutôt
le
ça
chanteur,
fait partie de vous-même.
Les chanteurs,
les chanteurs, ils l'ont aussi, c'est vrai. Oui, mais enfin bon, les chanteurs, ils ont leur rôle à gérer.
Si.
Vous avez quand même, quand on voit quand même ce qui se passe sur une partition de chef d'orchestre, on se dit mais comment fait-il ?
Comment dire, n'est pas une règle aujourd'hui et comme parfois j'aime avoir la partition devant moi et j'ai changé un peu d'attitude pour ça parce que. C'est un message vraiment propre que je désire donner et pas être influencé le public dans un virtuosisme,
oui, voilà,
dans
une
virtuosisme
oui.
qui peut-être être lu comme ça, comme
d'accord.
Virtuosisme.
L'opéra, d'accord. Donc, c'est quand même assez central, non? Finalement, tout revient à l'opéra. On s'en éloigne, on joue l'orchestre et l'opéra, c'est un peu la quintessence quand même du métier, non?
C'est beaucoup plus, comment dire, articulé, la coopération avec un metteur en scène, la coopération avec un cast. On arrive, bien sûr, avec une idée dramatique de l'opéra. Et moi, j'arrive toujours avec une idée, parfois aussi, comme un metteur en scène, parce que ma fantaisie travaille beaucoup. Et alors, je tue pas seulement les noms, mais les noms en relation aussi à des visions que j'ai de comme peut-être...
Mais c'est peut-être ça alors qui fait la richesse. Enfin, ce Tristan était quand même une merveille sur le plan musical. Peut-être aussi parce que vous parlez de théâtralisation.
Et j'adore le théâtre. Ouais, j'adore comme forme d'expression et je ne peux pas détacher le message musical de le message théâtral. Avoir vraiment étudié pour 10 ans composition, avoir écrit un peu de musique, il me porte aussi à considérer que notre ami compositeur, avant tout, qui a écrit pour l'opéra. Était vraiment quelqu'un qui pensait dans le point de vue théâtral d'une manière très forte et très profonde. Quand je parlais avec Pierre Audi, qui était notre metteur en scène, c'est que, point de vue un peu superficiel, Tristan, c'est une histoire d'amour. Mais si tu vas chercher bien le message, soit de le code médiéval, non, de le roman médiéval, et surtout de l'opéra de Wagner, c'est l'histoire de rédemption, c'est une histoire aussi de pardon, c'est une histoire de personnes qui sont déjà mortes quand commence la musique. Parce que le destin de Tristan Isolde, il est, comment dire...
Inscrit,
mais dans un monde totalement à part, ce n'est pas le monde Courvenal de Brangène. Quand le rideau il s'ouvre sous le premier acte, on a déjà devant quelqu'un qui est obligé à vivre dans un chagrin parce que ils sont obligés à vivre une vie qu'ils ne désirent pas vivre. Et tout l'opéra, comment dire, construit sur l'idée de cet mot allemand qui est le Sehnsucht. C'est pas un désir, c'est pas une nostalgie, c'est le désir qui brûle jusqu'à le moment qui s'accomplit. Le moment qui s'accomplit, c'est déjà terminé.
Oui, c'est déjà terminé, oui.
Alors, l'histoire d'Amur, il devient un prétexte pour ça. Et là, on a parlé avec le metteur en scène pour proposer un spectacle sur la lumière, plutôt que sur le décor, qui, sur Tristan, a une si grande importance. Mm-hmm. Et le grand travail qu'il a fait sur le caractère, sur le chanteur
sur les personnages.
Et sur la mise en place de tout ça.
Je trouve ça très beau, les moments les plus intenses dans la musique sont les moments où les personnages
bien sûr, et Tristan et Isolde, ils se touchent jamais.
Ouais,
parce que leur amour, c'est un amour qui va au-delà de la carnalité, de la physicité.
Ouais.
Et
mm-hmm.
Quand ils se touchent seulement avec l'affront, c'est-à-dire qu'alors c'est un idéal d'amour qui va à lier les deux personnages.
Ouais, c'était très beau ça. Allez, une autre musique, une vidéo, Richard Strauss.
Thank you.
Une vie de héros, donc, de Richard Strauss. On en écoutait un extrait. C'est une des premières œuvres que vous ayez jouées dans cet auditorium de Radio France, dont vous avez vraiment souhaité l'ouverture. Je me souviens de votre joie.
Le jour de l'ouverture.
Le jour de l'ouverture, c'était beau à voir parce que.
Moi, je parte de Paris et je peux dire, c'était très difficile de trouver une solution pour cette concert. Bien sûr, quand tu as deux orchestres dans la maison, tout le monde veut jouer, il veut être là. À la fin, je me rappelle que j'ai proposé à le président de partager la soirée et de dire, OK, nous on fait la première partie du concert et l'orchestre philharmonique, il peut jouer la deuxième partie et on fait ça. Nous, on joue avant parce que c'est l'orchestre national, c'est l'orchestre vieux, c'est l'orchestre historique et il doit être respecté pour ça. Mmh. Point. L'autre orchestre, avec laquelle nous avons tout le respect, elle a joué la deuxième partie. Mmh. Et là, c'était vraiment une bonne soirée de fête. Et tout s'est passé très, très bien. À la fin, il y a eu aussi une participation du public dans les nouvelles salles. La chose principale était de communiquer au public de Paris qu'une nouvelle salle était ouverte. Ouais. Était née dans un arrondissement particulier, beau, chaleureux. Et deux orchestres qui sont là pour faire du service.
Ce qui est important aussi, vous le disiez aussi, Daniel Legati, c'est que c'est important pour un orchestre de travailler dans la salle dans laquelle il va jouer. Ouais. Il y a un son à construire.
Alors, oui. Et je me suis aussi un peu battu pour continuer à rester dans l'auditorium. Mmh. C'est vrai que l'Orchestre National a eu une histoire avec le Théâtre des Champs-Élysées et c'est un lieu magnifique.
Oui.
Quand on a décidé de faire des opéras là, avec Michel Franck, et notamment le Macbeth de l'année dernière et Tristan de cette saison, j'ai proposé de retourner à le Théâtre des Champs-Élysées avec un partenariat sur la thématique de l'opéra. Alors, sur Shakespeare, pour Macbeth, on a fait deux concerts dans le monde shakespearien. Sur Tristan Isolde, on a fait deux concerts sur la conséquence qui a porté cet opéra dans le monde de la musique. Alors, le compositeur plus proche à Wagner. Le premier concert, on a fait Berg, le Siebenfrühlied et la quatrième de Mahler. Et après la première du Tristan, la septième de Bruckner, le Wesendonck-Lied. Et liste. L'idée de porter, de retourner à Théâtre des Champs-Élysées avec un projet artistique unitaire a donné, comme dire, un peu plus de lumière sur la présence de l'Orchestre National. Sinon, c'est comme de mettre du sel
partout sur le plat.
En plus, l'orchestre a ici la maison où on peut répéter et faire les concerts. En plus, on a une deuxième salle, qui c'est la salle Messiaen. Alors, je comprends pas pourquoi la programmation de la radio, ils partent pas dans leurs orchestres. Un lieu sérieux, ils partent de la programmation de l'orchestre et donnent à l'orchestre la possibilité de faire répétition sérieuse dans le lieu. Après, s'il y a de temps, de disponibilité, tu peux, comment dire, louer la salle. Mais parfois, on commence
les choses à l'envers.
Alors, comme j'écoutais, peut-être que l'orchestre il va répéter en dehors encore. Mais alors, de quoi on parle? On doit comprendre que tous les orchestres meilleurs du monde ont sa salle de répétition.
Mmh. Ah oui, la liste est longue.
Et alors, si tu vas au restaurant, tu as la cuisine qui marche parce qu'il y a 7 restaurants, le maître de restaurant et tout ça. Tu ne vas pas à manger dans un restaurant où le repas est préparé dans un autre endroit, il arrive. C'est une chose plutôt sérieuse, tout ça. La possibilité d'avoir une très belle salle, une deuxième salle qui marche très bien comme l'auditorium Messiaen. Les deux orchestres peuvent faire son travail, travailler sur le son, travailler sur l'unité musicale et présenter tout ça à son public. On part de ça. Où est la difficulté?
Allez, on finit avec une petite surprise pour les auditeurs.
Thank you.
C'était Nora Sismondi au bois.
Nora.
Qui interprétait donc la pièce d'un compositeur qui s'appelle Daniele Gatti. Donc une œuvre que vous avez écrite parce que vous avez fait aussi des études de composition, bien sûr, au conservatoire.
Oui, oui. Je me rappelle que j'ai commencé à écrire musique à 10 ans.
Ah! Il y avait un petit peu une vocation là derrière.
Alors, j'ai toujours écrit de la musique et quand j'ai commencé à étudier sérieusement en conservatoire pour devenir un chef d'orchestre, parce qu'en Italie, on est obligé d'étudier dans les conservatoires tous 10 ans de composition avant de commencer à étudier comme chef d'orchestre.
Si,
on a besoin d'une éducation, d'une préparation technique de premier niveau.
Mmh.
Mais pas composition idéale, la composition historique, le choral de Bach, l'harmonie, le fugue à quatre voix, le contrapunto, le double chœur, toutes les formes musicales et arriver à être capable de reproduire soit un fugue, une forme sonate, un premier temps de quartetto, des choses comme ça. Pour apprendre et comprendre l'analyse de la partition dans le moment que je vais à conduire un morceau.
C'est nécessaire.
Pour moi, oui, mais ce n'est pas une pratique diffusée.
Pas très courante,
non.
En fait.
Et mon professeur de composition, parce que j'ai eu deux professeurs de composition, il m'a toujours dit, tu dois continuer à écrire. Je ne sais pas, peut-être un jour, si j'ai un peu plus de temps, je retourne à prendre le crayon en main. Mais j'ai, comment dire, je ne désirais pas utiliser la position que j'ai comme chef d'orchestre pour imposer. Et là, cet morceau, c'est le deuxième mouvement d'un divertissement pour hautbois à cordes et deux corps obligés en trois mouvements et que j'écris vers l'année 2000-2001 pour le premier hautbois de théâtre communal de Bologne. À l'époque, j'étais chef principal, directeur musical du théâtre de Bologne. Et quand je suis arrivé ici, j'ai parlé un peu avec Nora, elle m'a demandé, mais comment est-ce? Et alors, on a fait une fois cette exécution au Festival de Montpellier.
Ouais.
Et ça, c'est un enregistrement du Festival de
Montpellier 2009.
Oui.
Bravo.
Mais depuis là, non, j'ai des choses dans sur mon table, mais parfois je pense de reprendre un peu le crayon.
C'est pas sûr qu'au concert de Gebau d'Amsterdam, vous ayez tellement le temps d'écrire non plus.
On verra.
On verra. Alors, nous n'avons pas tout pu évoquer, Daniele Gatti, les tournées prestigieuses de l'orchestre, vos répertoires préférés, les solistes que vous avez invités, pour certains que vous nous avez fait découvrir. Mais heureusement, une journée vous est consacrée sur France Musique, jeudi 9. Et je pense qu'on a l'occasion d'en entendre un petit peu plus. Vous avez choisi Honegger et Prokofiev pour votre dernier concert.
Oui, la troisième symphonie d'Honegger, la liturgique, et l'Alexandre Nevsky, la grande cantata de Sergei Prokofiev. C'est le dernier concert de la saison,
oui.
Bien sûr, c'est le dernier concert officiel. Après, je serai encore avec mes musiciens pour le 14 juillet, pour la quatrième année consécutive.
Oui.
C'est seulement en hautbois.
C'est en hautbois.
Oui, mon intention, c'est bien sûr de retourner, pas immédiatement, pas.
Hein. Mais de revenir nous voir.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, avec plaisir. Bravissimo maestro, comme on dit.
Grazie.
Grazie.
Grazie mille.
Bonjour Hugo Brisset.
Bonjour Dominique Boutel.
Alors la ville de Saint-Denis, une nouvelle fois au rythme de la musique classique. Jusqu'au 24 juin, le Festival de Saint-Denis propose une quinzaine de concerts dans la Basilique et à la Maison de la Légion d'honneur en partenariat avec Radio France. Le coup d'envoi de cette 48e édition a été donné le 26 mai avec la symphonie numéro 3 de Gustave Mahler. Hugo Brisset, vous étiez sur place, et on peut même dire vous étiez sur la place. Vous avez tendu l'oreille et le micro, c'est cela ?
Oui, et quoi de mieux que le cadre imposant de cette basilique pour la monumentale symphonie numéro 3 de Mahler. Le chef finlandais Mikko Frank dirigeait les forces de Radio France, l'orchestre philharmonique, la maîtrise et le chœur. Sur scène également la mezzo-soprano Miyoko Fujimura. Tous étaient réunis sous les hautes voûtes gothiques de la basilique parmi les sépultures de quelques 75 rois et reines de France.
Et oui.
J'ai décidé personnellement, moi, d'assister au concert au grand air, car une des particularités de ce festival est qu'un écran géant retransmet en direct juste devant la basilique. Assis sur un transat, quelques dizaines de curieux sont venus conclure leur journée en musique, dont beaucoup de mélomanes du coin des Dionysiens.
Stéphane Suchanek, je suis cor anglais solo à l'Orchestre Philharmonique. C'est vraiment un beau festival et on a toujours une belle programmation, donc c'est vraiment un grand plaisir.
Vous-même, ça fait combien d'années que vous venez ici
Ben, ça fait 20 ans que je suis à l'orchestre, donc je pense 20 ans que je viens, puisqu'on fait le festival chaque année. On fait au moins un concert par an.
On peut suivre aussi de l'extérieur sur les, oui, sur les transats. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je trouve ça super pour la population d'avoir la possibilité d'avoir accès à la musique classique. C'est une très très bonne idée, gratuitement, et je pense qu'ils sont peut-être bien mieux logés que les gens dans l'église sur des chaises qui ne sont pas très confortables. C'est très très bien dehors sur les transats avec l'écran géant, les enceintes.
Alors, est-ce que vous pouvez me présenter un peu le programme de ce soir?
Donc nous jouons la 3e symphonie de Mahler, grosse grosse œuvre de Mahler, vraiment titanesque. Mikko Franck, c'est la première fois qu'il la dirige, nous a-t-il dit hier soir, donc c'est très bien parce que c'est voilà, une découverte pour lui.
Je m'appelle Sébastien Bouveron et je suis violoniste.
D'accord, alors est-ce que vous êtes déjà venu ici dans le cadre du festival?
Alors non, j'avais joué au festival OFF il y a quelques années, de la musique de chambre, mais au festival officiel, non, c'est la première fois.
Alors qu'est-ce que ça vous fait de découvrir ce cadre comme ça, très particulier de la Basilique Saint-Denis?
Moi je connaissais la Basilique parce que j'y avais déjà été pour la visiter, mais la voir dans le cadre d'un concert, c'est toujours autre chose. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'il y a la musique de Mahler qui résonne à l'intérieur et donc qui fait vivre cet immense espace sous les voûtes quoi, de l'église. Et c'est particulièrement émouvant, je trouve.
Et justement, l'acoustique de cette Basilique, vous en pensez quoi?
Pour l'instant, c'est difficile à dire puisqu'on a simplement fait la générale hier soir et que donc la basilique était vide hein, par définition. Enfin, il y avait quelques invités, mais il y en aura plus ce soir. Donc, à mon avis, l'acoustique va forcément un petit peu changer. Je ne sais pas dans quelle proportion, mais ça va certainement un peu changer. Donc, on verra ce soir comment ça sonnera. Mais a priori, ça sonne déjà très bien. Donc, je pense qu'avec un peu moins de réverbération, donc avec le public, ça sera encore mieux.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette œuvre de Mahler, justement?
Alors elle est très belle et en même temps un peu étrange. Déjà il y a de la voix, alors c'est pas une première puisqu'il y avait bien sûr Beethoven avant lui, mais ça reste une œuvre facile à écouter. Il y a pas de, c'est pas du Schoenberg, hein. Il y a pas de qui nous semble étrange ou encore inhabituel à notre époque. Non, c'est assez, c'est une musique qui est facile à écouter, mais qui est donc est très longue. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement, je parle de la longueur parce que le fait même que l'œuvre soit très longue et que ce soit une œuvre symphonique, ça implique un autre rapport à la musique. C'est-à-dire que la musique symphonique jusqu'à Beethoven ou même Schumann, c'est une musique qui, en tout cas pour les symphonies, qui dépasse rarement les 40 minutes. Et là, on est à 1h45 à peu près de musique. Donc ça met le musicien et l'auditeur dans un état très spécial, c'est-à-dire une perception du temps, un espace temporel dont on n'a pas l'habitude. Même nous, musiciens, c'est assez rare des œuvres uniquement symphoniques comme ça qui durent aussi longtemps. J'emploierai pas le terme démesuré parce que Mahler maîtrise évidemment assez son sujet pour que ça ne sente pas la démesure, mais la richesse. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui est effectivement à la fois très intense, mais par certains aspects très légère. Où il y a de la musique extrêmement légère, populaire, même avec le cœur d'enfant. Il y a des passages extrêmement joyeux, encore une fois facile à écouter, dans le sens où on se laisse porter par la musique, où on se laisse conduire par Mahler, justement, avec tout son métier de chef d'orchestre et de compositeur exceptionnel. On se laisse porter par son discours musical pendant 1h45 sans s'ennuyer, ce qui est quelque chose de très important, aussi bien pour les musiciens que pour les auditeurs. Donc non, c'est une grande expérience. Et puis en plus dans ce cadre mystique quoi, dans cette basilique, je trouve que ça apporte une résonance supplémentaire à cette musique extraordinaire.
Et bien, je vous souhaite un bon concert.
Merci.
Je m'appelle Annie Kourevski, je suis soprano dans le chœur de Radio France. Je suis rentrée en 1989. Je C'est une ancienne.
Alors, bah, qu'est-ce que ça vous fait de jouer dans ce cadre très particulier de la Basilique Saint-Denis ?
C'est un bonheur. On était justement en train d'en parler, et en disant qu'on était très heureuse de savoir que la deuxième tour allait être reconstruite. C'est un lieu qui est imprégné d'un passé très riche. Les rois de France sont enterrés là. Et puis, c'est un bel endroit, bien sûr. Hein. C'est un très bel endroit. Et moi, j'aime beaucoup chaque année revenir participer au Festival de Saint-Denis. On a chanté beaucoup hein, dans cet endroit.
Et c'est pas nous qui avons écroulé la tour, hein, je vous signale. Hein.
On a eu des positions différentes. On a été au fond de la nef. On a été de ce côté-là maintenant. On a essayé plusieurs endroits. Et finalement, c'est celui où on est maintenant qui est le meilleur.
Pourquoi ?
Pour la projection du son et pour l'acoustique. Parce que
la
sinon le son
aussi avec le chef, le contact avec le chef, il y a un peu plus de, on est un peu plus rapprochés, voilà. Donc on voit un peu mieux sa gestique.
Et le son tourne moins.
Evelyne Premier. Je suis bénévole au festival depuis 40 ans. Je place le public. J'ai assisté au début du festival et puis le festival a beaucoup évolué. Au départ, c'était assez amateur. Ce n'était pas exactement la ville de Saint-Denis, c'était privé. Et puis petit à petit, la ville a pris en main le festival et au point de vue festival du 93, c'est le seul pratiquement qui est resté vraiment en musique classique. Au départ, c'était des gens de Saint-Denis qui venaient assister aux concerts et après, c'était surtout des Parisiens qui viennent. Il y a une notoriété, puis on fait un petit peu de publicité, aussi bien à la radio qu'à la télé, donc ça attire du monde. Je trouve que certaines musiques cadrent mieux dans ce monument. Quand il y a on a eu des concerts comme les chœurs de Saint-Olaf ou des concerts de chanter a cappella, c'est-à-dire que c'est très varié au point de vue musique.
Donc, je suis Alexandre Batty, je suis trompette solo à l'Orchestre Philharmonique. Ouais, c'était un moment très spécial parce que pour notre part, c'est la première symphonie de Mahler qu'on fait avec Mikko Franck. Et on a déjà fait une cinquième symphonie de Mahler, mais là, il était venu remplacer. On avait fait juste un raccord et un concert directement. Et là, on a eu toute une semaine de travail. Donc, on a pu voir l'évolution, la construction de l'œuvre et sa façon d'aborder l'œuvre. Donc, forcément, ce soir, c'était un peu l'aboutissement de toute cette semaine. Et c'était un moment un peu extraordinaire. C'est des dispositions particulières, le cadre est particulier. Forcément, c'est magique, un peu la basilique Saint-Denis, par son histoire. Et aussi, pour nous, c'est une acoustique qui ne nous est pas très familière. Donc, il faut s'adapter. C'est une acoustique qui tourne énormément. Il y a beaucoup de résonance. Voilà. Ensuite, au niveau de la disposition, ce n'est pas toujours évident, parce qu'on ne peut pas gradiner, c'est-à-dire mettre les musiciens qui sont au fond de l'orchestre plus en hauteur que les premiers musiciens, donc c'est un peu plus difficile pour voir le chef, pour se voir aussi entre nous, pour jouer, mais on s'adapte, et puis c'est un peu le jeu. Pour ma part, c'est la 5 ou 6e fois que je joue.
Et comme vous pouvez voir, donc, il y avait des transats devant cette basilique, il y a, oui, des gens qui vous ont suivi pendant tout le concert de l'extérieur. Ça fait quoi de voir cet étrange dispositif?
C'est assez génial ce côté-là. Tout à l'heure, je croisais une femme qui me disait, qui me demandait où c'était, elle regardait le concert ici, elle me dit, moi tous les ans je viens écouter le concert avec mon petit verre de rosé sur le transat, donc c'est un petit clin d'œil assez sympa et on peut pas faire ça partout, donc je trouve que c'est une très bonne idée, il faudrait même en mettre plus à mon goût.
Je m'appelle Marie. Je suis dionysienne depuis 10 ans. J'étais à Paris avant. Je suis bénévole au festival depuis à peu près 8 ans. Et j'aime beaucoup.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du concert de ce soir ?
Superbe interprétation, vraiment très beau. Les solistes, notamment les cuivres, magnifiques. Ouais, je me régale. C'est un vrai plaisir. C'est un miracle, quoi.
C'est un cadre magnifique pour écouter de la musique classique.
Oui, c'est très beau, c'est très beau. Je trouve que ça pourrait aussi servir à plein d'autres choses, hein, mais bon, heureusement qu'il y a le festival dans cette basilique. Il y a des gens qui viennent d'Angleterre, d'Italie, et puis c'est tellement magique ce festival, enfin c'est superbe, quoi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de baroque, et moi j'aime beaucoup le baroque. Il y a aussi de temps en temps des très belles symphonies, notamment il y a 2 ou 3 ans, il y a eu la 7e de Shostakovich, qui était une interprétation extraordinaire. On entendait chaque instrument, j'ai jamais entendu un truc aussi beau. Une si belle interprétation de cette symphonie de Shostakovich, la Leningrad. Et il y a des concerts de musique baroque fantastiques, vraiment.
C'est une acoustique spéciale quand on est à l'intérieur.
C'est unique, c'est ample, c'est généreux, c'est un hymne à la musique, quoi, vraiment permanent, quoi.
Je m'appelle Anna, ça fait 30 ans que j'habite Saint-Denis. Donc c'est vrai que ils font ça depuis quelques années et j'aime beaucoup.
Vous êtes une habituée du festival ?
Ouais. En tant que bénévole, mais parce que ça fait 30 ans que j'habite Saint-Denis et oui, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un super événement. J'adore la musique donc.
Ça fait quoi d'écouter de la musique classique assis sur un transat comme ça, sur une place ?
Là, on respire, tout est beaucoup plus grand. On sent le ciel, on sent le monde, on est un peu comme dans... On est inspiré, on est plus inspiré pour moi que d'être à l'intérieur. Enfin, c'est autre chose, mais je... Ouais. On est dans le monde, hein, avec les arbres, le ciel. Quelque chose de plus grand pour moi.
Sachez que vous pouvez retrouver en intégralité le concert d'ouverture de ce festival, la 3e symphonie de Mahler, que vous avez pu entendre dans ce reportage, en podcastant l'émission Les Vendredis du Filard, datant du 27 mai. Et vous pouvez encore assister à une dizaine de concerts du festival de Saint-Denis qui prend fin le 24 juin, dans la basilique et à la maison de la Légion d'honneur. Le programme est consultable sur le site officiel du festival. Et sur France Musique, nous vous faisons gagner des places pour le Requiem de Donizetti le 8 juin et le Samedi de Lumière de Stockhausen le 17 juin. Pour tenter votre chance au tirage au sort, rendez-vous sur la page Agenda du site de France Musique. Le festival se clôturera les 23 et 24 juin avec 2 représentations de la symphonie numéro 9 de Beethoven par l'Orchestre National de France, dirigé par Michele Mariotti. Un concert que vous pourrez suivre en direct le 23 au soir, dès 20h sur France Musique, dans l'émission Les Jeudis du National, présentée par Gaëlle Le Gallic.
Merci Hugo Brisset. La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique.
Bonjour à tous.
John McLaughlin, c'est Yann Maresch qui a arrangé entièrement l'album dont est issu cette English Jam.
Alors Marie, vous dédiez votre chronique ce matin à Yann Maresch parce que ce soir, à l'auditorium de la Maison de la Radio, l'Orchestre Philharmonique de Radio France créera sa dernière œuvre, Réplique, pour harpe augmentée et orchestre.
Oui, et puis si j'ai ouvert cette chronique en diffusant John McLaughlin, c'est parce que Yann Maresch est guitariste de formation et qu'il a été le seul et unique élève de John McLaughlin. Yann Maresch a étudié le jazz aux États-Unis, à l'université de Berkeley en particulier, avant de se consacrer à l'écriture. Alors on parle souvent de cette signature du jazz dans son œuvre, et notamment par exemple dans l'une de ses pièces les plus connues, Metallix, pour trompette et dispositif électronique qu'il a composé en 95. Alors c'est indéniable qu'il y a ce traitement de l'instrument, non pas à la façon du jazz, mais comme si le timbre lui-même de la trompette avait de fait été transformé par son histoire. Au fond, on a l'impression, en écoutant cette pièce, que ces gestes qui semblent provenir du jazz, des façons d'attraper les sons par exemple, sont en fait inscrits dans l'ADN de la trompette de Yann Maresch en tout cas. Et puis le timbre est traité avec une sorte d'élégance un peu irréelle. Les sons électroniques qu'on entend sont des sons de trompette traités informatiquement. On dirait un petit peu de l'orgamonde.
Oui, c'est vrai.
Il y a un goût comme ça pour le timbre chez Yann Maresch, une espèce d'appétit du beau son, rarement âpre ou tendu ou anguleux. C'est un son gourmand, même quand il est fulgurant et même surtout quand il est fulgurant. Et justement, il me semble que ce qui donne aussi ce sentiment-là, étrangement, c'est son rapport au temps. Il y a un souci du rythme très particulier dans la musique de Yann Maresch. On passe du fourmillement à la résonance. Il y a une sensation du rythme très forte, mais ce n'est pas qu'une affaire de pulsation. Évidemment, dans la musique d'aujourd'hui, c'est rare qu'il y ait une pulsation régulière. C'est plutôt la pulsation au sens du mouvement. Et l'on peut passer d'un mouvement d'onde à une immobilité soudaine. C'est extrêmement bien fait, comme si cette musique était dotée d'une sorte de souplesse, d'élasticité. Alors je pense particulièrement à cette pièce pour 12 percussionnistes qui s'intitule « Festin ».
Thank you.
Dans cet extrait de Festin de Yann Maresch, l'orchestre de percussion de l'Académie d'Aix-en-Provence est dirigé par Michel Cerruti.
Et c'était donc l'enregistrement de la création. Et tout à l'heure, j'essayais d'exprimer le lien qu'il y a entre timbre et rythme, comme s'il s'agissait d'un seul et même mouvement. Rien n'est détachable dans la musique de Yann Maresch. Chaque œuvre possède aussi de sa couleur harmonique, sa teinte. Il y a comme ça un souci de globalité, de cohérence. Et quand il y a une partie de soliste, Yann Maresch recherche encore ce rapport, ce continuum entre l'orchestre et le soliste, si bien que la partie du soliste semble parfois augmentée par l'orchestre. On écoute le début de Eclipse pour clarinette et ensemble.
C'est André Troutet qui est à la clarinette avec l'ensemble intercontemporain que dirigeait Jonathan Nott dans cette éclipse de Yann Maresch.
Et ce soir à l'auditorium de la Maison de la Radio, ça ne sera pas la clarinette mais la harpe qui sera à l'honneur, une harpe augmentée même.
Alors c'est quoi une harpe augmentée Marie ?
Alors en fait je crois, parce que je ne l'ai pas vu, mais que c'est un instrument qui produit des sons supplémentaires à ceux joués par l'interprète. dans une grande virtuosité d'ailleurs, je crois. Et donc ce soir, ce sera Nicolas Tullier qui sera à la harpe, l'orchestre philharmonique de Radio France, qui sera dirigé par Julien Leroy.
Et puis il y a des places à gagner pour ce concert du Festival Manifeste qui a lieu donc aujourd'hui à 20h à l'auditorium de la Maison de la Radio. Au programme, en plus de la création de répliques de Yann Maresch, nous pourrons entendre Corrente de Magnus Lindberg et la symphonie numéro 4 de Witold Lutosławski. Pour gagner des places pour ce concert, il vous suffit de nous écrire au plus vite sur la page de l'émission sur le site francemusique.fr. À bientôt Marie Fauché.
À bientôt Dominique.
Agenda. Moment de plaisir, lundi 6 juin à 19h avec l'enregistrement de l'émission de Stéphane Goldet, Plaisir du Quatuor, qui reçoit le Quatuor Cavatine. À écouter sur France Musique dimanche de 15h30 à 17h. La tribune des critiques de disques jeudi 9 juin s'interrogera sur les interprétations de la symphonie numéro 3, l'héroïque de Beethoven. Vous êtes invité à assister et même à participer à l'enregistrement à 19h au studio 109 de la Maison de la Radio. Et la diffusion sur France Musique, vous le savez, ce sera le dimanche 12 juin à 14h. Jeudi 9 juin, notre invité de ce matin, Daniel Egatti, dirigera pour la dernière fois de la saison son orchestre, l'Orchestre National de France, à l'auditorium de la Maison de la Radio. Pour son deuxième concert d'adieu, il a choisi Honegger et Prokofiev. Et le concert sera diffusé, bien sûr, en direct sur France Musique et sur Arte Concert. Et si vous êtes encore un peu patient, une surprise vous attend en fin d'émission. Enfin, vendredi, ce sera au tour de l'Orchestre Philharmonique de Radio France d'occuper l'auditorium de la Maison de la Radio à partir de 20h, sous la baguette de son chef Mikko Franck. L'un des violoncellistes les plus fêtés, Truls Mörck, jouera la symphonie concertante de Prokofiev. Puis l'orchestre nous régalera du concerto pour orchestre de Bartok. C'est à la Maison de la Radio vendredi à 20h et en direct sur France Musique.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre commentaire de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors vous êtes en fin d'émission ce matin parce que comme vous le savez, nous avons eu la chance de recevoir Daniel Egatti, mais vous allez célébrer un anniversaire.
Oui, qui n'est pas celui de Daniel Egatti.
Non, je ne crois pas.
Mais qui est celui du Front Populaire en 1936, qui vous le savez a complètement changé la donne sociale et même économique du pays, qui aussi est une formidable embellie peu de temps avant la grande catastrophe. Et c'est une embellie qui a été préparée de longue main et le phonographe et la radio ont participé à leur manière à cette transformation. Le phonographe surtout parce que la radio, voix officielle, restait assez discrète. Alors tout d'abord, pour nous mettre dans le bain, un petit air célèbre, ma foi.
Là, il y a des cuivres.
Ah, là, il y a des cuivres et ça bouge. Hein.
Et ça puis... bouge, on danse la Carmagnole.
Voilà, et alors c'est étonnant parce que c'est la conclusion de la Rosière républicaine d'André Modeste Grétry. Normalement, Grétry, c'est le compositeur de Marie-Antoinette, etc., etc. Eh bien, on oublie qu'il a été aussi un fervent révolutionnaire et qu'il a très, très tôt adopté les idées de son temps. Et donc, cette Rosière républicaine célèbre les vertus de la Rosière, de la République et de la Révolution.
Bravo. Bravo. C'est le Grand Orchestre Philharmonique sous la direction de Selmar Merovitz et c'est un disque pâté 1935.
Oui, car les années 35-36 voient une importante activité qui a débuté, il faut dire, dès la fin des années 20, en 29 pour être précis, avec Jean Loris qui a fondé une maison de disques qui est très très vite lié à la SFIO, qui s'appelle La Voix des Nôtres. Et comme ils étaient privés d'antennes et de moyens de diffusion massif, ils ont eu l'idée d'utiliser le disque. Alors, il y a des discours qui ont été enregistrés, des chansons syndicales, des chansons politiques. Et ça connaît une diffusion grâce au journal Le Populaire. Alors, si vous voulez bien, allons tout de suite écouter un peu de Schumann, qui, comme chacun le sait, était un musicien révolutionnaire, ce qui n'est pas faux, somme toute, oui. Musicien romantique, et qui a été récupéré par Henri Radinger et récupéré encore dans un message politique, un pour tous, tous pour un.
Un pour tous et tous pour un, fiers de voir à tous donner. Loi d'honneur et loi d'amour, pour finir à longtemps en rêve, sans repos, bons ouvriers, c'est assez de mots souffert. Un pour tous et tous pour un, confiant à l'enfant en rêve, vers l'étoile qui se lève.
C'est une époque où on n'a pas peur des mots.
Non, dites-nous fraternité, c'est assez joli d'entendre ça aujourd'hui.
C'est un disque donc, La Voix des Nôtres, collection Jean Loris, Paris 1930, Jean-Yves Pat.
Oui, donc vous voyez, le Front Populaire ne vient pas tout seul. Alors par contre, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et ce qui reste dans la mémoire collective du Front Populaire sont les grandes grèves qui ont complètement dynamité le pays. Et de très très bonne humeur d'ailleurs, beaucoup de mouvements grévistes sont dans le souvenir aujourd'hui perçus comme des fêtes. Alors j'ai trouvé un enregistrement incroyable fait au rayon des nouveautés du printemps,
oh là là,
à Paris, où le célèbre fantaisiste Champy, qu'on a un peu oublié, eh bien,
mais pas sur France Musique,
anime un piquet de grève. Alors ça vaut son pesant de grève.
Allô, allô, ici Printemps. Mes chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre grand et très sympathique comique, j'ai dit Champy. Ah,
ça va, non, un peu, ça marche, puis après, dis donc, dites, c'est la troisième fois qu'on recommence, alors. Dites, écoutez, on va chanter la grève du printemps, ça boum. Alors, écoutez, ceux qui chantent faux, mettez-les en veilleuse. Alors, on commence par le refrain, comme d'habitude. Alors, un, deux, trois, les... Je me suis trompé, mais ça ne fait rien, le cœur bercé d'un doux entrain. Et quand enfin arrivait l'heure de repartir, on se disait, venez demain à la même heure, comme on dansait, comme on riait, les jours de la vie. Attends, vous avez vu, tout à l'heure, je me suis gouré, moi. Mais je m'en fous, j'ai pas arrêté. On va refaire leur point, c'est le plus beau. Allez, les jours de la vie.
C'est vraiment un étonnant témoignage, Jean-Yves Pat.
C'est quelque chose, comme on dit dans
donc
le
monde. Donc enregistré dans les magasins du printemps avec le chœur des grévistes,
voilà.
Qui chante...
Qui chante sur une chanson célèbre à l'époque, Les Beaux Dimanches de Printemps, des paroles, on avait distribué des petits papiers, et puis ils avaient dû répéter une fois ou deux, on le devine au début de l'enregistrement, et Roule ma poule s'est enregistré et s'est vendu au profit des grévistes. Voilà. Donc c'est quand même assez étonnant d'entendre ça. La qualité de l'enregistrement n'est pas terrible, terrible.
Le chœur n'est peut-être pas le plus grand chœur.
Si, c'est le chœur de l'opéra, vous n'avez pas reconnu.
Alors on termine carrément en beauté, là. Qu'est-ce que vous nous avez amené ?
On est obligé de terminer en beauté avec l'International, qui évidemment est joué à tous les carrefours et à toutes les cérémonies. Et ça, c'est un enregistrement assez étonnant, puisqu'il est réalisé en 1939. Et on sait bien, 1939, c'est l'année de tous les périls. Donc je vous laisse méditer cette International qui sera sanglante.
C'est la chorale populaire de Paris, le grand orchestre sous la direction de Peter Rosset. La chorale populaire de Paris, le grand orchestre sous la direction de Peter Rosset. C'est un disque Columbia, Paris 1939. C'est un petit moment d'histoire puisque nous fêtons, grâce à vous, Jean-Yves Pat,
l'anniversaire du Front populaire de 1936. Juin 1936. C'est vrai que c'est pas de la grande musique dans l'ensemble, sauf Schumann, mais ça valait quand même le coup d'entendre ça.
Merci Jean-Yves, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et pour se quitter, c'est un cadeau à offrir aux enfants que je vous propose de gagner ce matin. Un livret d'activité qui s'intitule « Tout pour la musique » et que publient les éditions de Radio France avec les éditions Minus. Les enfants y sont invités à réaliser des activités ludiques et originales comme se rêver batteur avec les body percussions, s'essayer au scat comme Louis Armstrong, transformer des légumes en instruments insolites. Autant de nouvelles façons d'entendre et de faire de la musique. Quant aux plus grands d'entre vous, vous êtes invités à venir saluer le maestro Gatti ici à l'Auditorium pour son deuxième concert de départ que nous évoquions avec lui tout à l'heure. C'est donc bien le 9 juin à 20h. Pour gagner ses places ou recevoir le livret, tout pour la musique, il vous suffit de nous écrire sur la page de l'émission, sur le site de France Musique, francemusique.fr. C'est donc la fin de Fabrication Maison, réalisée aujourd'hui avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, de Marie Jaworski, de Cécile Gissot et de Xavier Atto, que je remercie chaleureusement. À très vite !